En préparant cette série de podcasts, on est parti à la rencontre de jeunes pour leur demander quel était le thème scientifique qui les intéressait le plus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un sujet est revenu très souvent, le corps humain.
Les sujets scientifiques qui m'intéressent le plus, c'est surtout la biologie, c'est-à-dire l'anatomie, etc. Ça m'intéresse beaucoup.
Comprendre comment le corps humain il fonctionne et tout ça.
Je vais beaucoup m'intéresser à tout ce qui est biologie, le corps humain, la médecine et tout ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le développement des médicaments. Pourquoi est-ce qu'on va les développer? Dans quel intérêt?
Si c'est possible d'un jour contrer ces maladies.
Et c'est vrai qu'en y repensant, s'il y a bien un sujet qui nous concerne tous personnellement, c'est la santé. Depuis notre naissance, médecins, dentistes, pharmaciens sont présents dans notre quotidien et ils ne sont pas les seuls. Dans cet épisode, on t'emmène à la rencontre de professionnels de la santé, des chercheurs et chercheuses dévoués qui contribuent à trouver de nouveaux traitements et à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, qui est, comme tu le verras, plutôt bien complexe.
Au fait, le podcast scientifique à l'écoute de tes questions.
Chaque semaine, on entend parler de découvertes scientifiques sur la santé, de nouveaux vaccins, de traitements, de médicaments, sans qu'on arrête pour autant de parler de plein de maladies différentes. Alors, comment ça se fait ?
L'excellente question, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de traitement pour toutes les maladies, pour tous les virus ?
Lui, c'est Jean-Michel Denier. Il est pharmacien et professeur à l'université de Namur. Et pour bien comprendre la suite, il faut que je te dise qu'il n'a, disons, plus beaucoup de cheveux.
Ce qui va avec la science, ce qui évolue avec la science, c'est justement la connaissance de façon plus approfondie des maladies, du développement des maladies. Mais le corollaire, c'est que plus on étudie les maladies, plus on se rend compte en fait de la complexité des maladies. Et donc là où on part le passé, on se disait on va certainement identifier des petites cibles thérapeutiques qui vont permettre de traiter la maladie d'Alzheimer, de traiter toutes les formes cancéreuses. Il suffit de me regarder, de traiter par exemple la perte des cheveux. Moi, mon père, qui avait perdu ses cheveux aussi comme moi, m'a dit, mais toi, de toute façon, quand tu seras adulte, on aura un traitement pour la perte des cheveux. Ben, on n'a toujours pas de traitement pour la perte des cheveux. Et donc les croyances populaires qui font qu'avec les sciences qui avancent, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir traiter toutes les maladies, est un leurre, parce que chaque maladie amène de la complexité. Ce qu'on amène certainement, c'est de la spécificité. On essaye vraiment d'adapter des traitements à certains patients.
Et puis parfois, au sein d'une même maladie, on n'a pas le même mécanisme d'un patient à l'autre, donc il faut aussi comprendre déjà en premier comment la maladie fonctionne, et puis est-ce que ça s'applique vraiment à tous les patients, est-ce que si j'ai un traitement, est-ce qu'il va fonctionner chez tout le monde, s'il ne fonctionne pas chez tout le monde, mais pourquoi. Donc c'est vraiment toute cette compréhension plus moléculaire qu'il faut arriver à étudier, et c'est vraiment cette partie-là qui prend du temps et qui fait qu'on ne connaît pas encore tout.
Comme le souligne Margot Mignolet, doctorante en sciences biomédicales à l'université de Namur, la médecine évolue. Elle se spécialise pour mieux comprendre les maladies, découvrir les mécanismes de notre corps humain pour pouvoir apporter les solutions les plus adaptées aux besoins de chaque patient. Et si il y a bien une maladie qui illustre cette idée, c'est le cancer. Le cancer est sans doute l'une des maladies qui nous vient le plus rapidement à l'esprit quand on parle de santé. Mais au fait, comment ça fonctionne ? Pour mieux comprendre tout ça, j'ai posé la question à Karine Mikkels, professeure et chercheuse en biologie cellulaire et spécialiste du cancer.
Le cancer débute dans une cellule qui subit une mutation, c'est-à-dire une altération dans l'information génétique qui code pour fonctionnement de, une protéine qui régule la prolifération des cellules, donc le fait que les cellules se multiplient. Cette altération va faire en sorte que la cellule se multiplie beaucoup, se multiplie de façon exagérée et crée une tumeur qui va perturber le fonctionnement de l'organisme, et c'est ça un cancer en fait. Cette tumeur peut aussi libérer des cellules qui vont aller s'installer ailleurs, par exemple qui voyagent dans le sang, qui vont s'installer dans le poumon, dans les os, dans le cerveau, et c'est ça qu'on appelle des métastases, et c'est celles-là qui sont vraiment très dangereuses pour la santé des patients.
Les cancers suivent donc tous le même mécanisme moléculaire. Ainsi, quand on parle du cancer du sein, des os ou de la prostate, c'est simplement que la tumeur va commencer à se développer à cet endroit particulier de l'organisme. Et les mutations arrivent lorsque notre corps est exposé à des situations qui abîment notre ADN. Par exemple, la lumière du soleil, les fameux UV, mais aussi le tabac, l'alcool ou encore d'autres molécules dites cancérigènes.
Alors heureusement, nos cellules ont des super pouvoirs de réparation de l'ADN, mais de temps en temps, il y a une mutation qui n'est pas réparée. Et si, pas de chance, parce qu'il y a en effet pas de chance, cette mutation tombe dans un gène qui code pour une protéine qui régule la prolifération, ben, la cellule devient cancéreuse. Alors cette cellule-là, elle reste dans l'organisme, elle prolifère un petit peu. Heureusement, notre système immunitaire peut la reconnaître, et donc et c'est éliminé, tant mieux. Mais il peut y en avoir un autre ailleurs, et puis un autre ailleurs. Et donc au fur et à mesure du temps, ces cellules s'accumulent dans l'organisme. Et c'est aussi pour ça que l'incidence du cancer augmente avec l'âge, en fait. Et toutes nos cellules sont susceptibles de devenir cancéreuses. Heureusement, ça n'arrive pas souvent.
Que ce soit pour le cancer ou pour les autres maladies, la recherche scientifique tente de comprendre leur fonctionnement, la réaction de notre corps, ainsi que les meilleurs traitements possibles. Les chercheuses et chercheurs jouent alors un rôle essentiel de détective pour répondre à toutes ces questions. Et c'est justement cette envie de mieux comprendre qui a motivé Margot à se lancer dans des études en sciences biomédicales.
J'ai toujours été très intéressée par le fonctionnement du corps humain, mais je ne savais pas vraiment si je voulais me diriger plus vers la science ou la médecine, mais je savais que c'était quelque chose en rapport avec la biologie du corps humain. Et quand j'étais en secondaire, j'étais vraiment très intéressée par le cours de bio. Et en me renseignant après sur les études, j'ai découvert qu'il existait les sciences biomédicales. Parce que j'étais intéressée par la médecine, mais en même temps, j'avais pas envie de me lancer dans autant d'années d'études. Et surtout, ce qui moi m'intéressait dans le côté médical, c'était comprendre des maladies. Et donc c'est là que j'ai trouvé les sciences biomédicales et la recherche qui correspondait vraiment à ce que je recherchais.
Après ces études, Margot s'est lancée dans l'aventure incroyable du doctorat. 4 années durant lesquelles elle mène une recherche entre réalité des patients et laboratoire sur une des conséquences du Covid-19, le Covid long.
Donc ce sont toutes des personnes qui, suite à une infection Covid-19, ont toujours des symptômes qui persistent dans le temps. Donc, ce sont beaucoup des patients qui souffrent de troubles cognitifs, de fatigue, il y a aussi beaucoup de problèmes respiratoires. Et on essaye de comprendre ce qui se passe chez ces patients et pourquoi eux ne se sont pas remis de l'infection par rapport à d'autres personnes. Dans notre corps, on a notre système immunitaire qui nous défend normalement contre les infections. Mais parfois, suite à des infections virales, le système immunitaire peut s'emballer et ne plus du tout contrôler sa réponse. Et donc, on a les anticorps, ces molécules qui, justement, attaquent le virus, eh bien, perdent un peu le contrôle et attaquent également le corps humain. Et ça mène au développement de maladies qu'on appelle maladies auto-immunes. Et on s'est demandé si ça pouvait aussi être le cas dans le cas du Covid long.
Margot a donc analysé le fonctionnement des anticorps de plusieurs patients souffrant du Covid long. Elle a alors pu démontrer qu'ils allaient cibler en particulier les neurones sensoriels, ces cellules qui jouent un rôle important dans la perception de la douleur. Ainsi, la recherche de Margot permet d'expliquer d'où provient cette hypersensibilité à la douleur ressentie par les malades, ouvrant ensuite la voie à un éventuel traitement. On l'a vu, le corps humain est un système complexe qui demande beaucoup de temps et d'investissement à tous les niveaux. Mais les sciences de la santé sont loin d'être à l'arrêt. Les progrès sont nombreux, tant au niveau des recherches et des traitements, mais aussi du côté des technologies, comme l'évoque Jean-Michel Denier.
Aujourd'hui, on traite la plupart des cancers du sein correctement. On traite la plupart des leucémies. Avant, un enfant qui avait une leucémie, les pronostics étaient très mauvais. On traite la plupart des lymphomes, on traite la plupart des myélomes multiples. Avant, on avait des grandes difficultés pour traiter des cancers de la moelle dans les années 80-90. Aujourd'hui, un patient qui souffre du sida ou d'une infection au virus HIV, on a des traitements qui sont beaucoup plus efficaces, qui fait qu'on ne meurt plus vraiment énormément du sida. L'hépatite C, on n'avait pas de traitement. On a des traitements. On a des vaccins qui préviennent des cancers, comme le cancer du col utérin, qui n'existait pas. Et donc tout ça, ce sont des avancées extraordinaires. Et donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément de traitement aujourd'hui qu'on n'en aura pas demain, mais qu'il nécessite encore des améliorations extraordinaires. Et les outils aujourd'hui ont fait un bond supplémentaire avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, qui nous amène aussi dans une nouvelle ère extraordinaire.
Bien plus qu'un outil, l'intelligence artificielle révolutionne aujourd'hui le secteur de la santé, tant dans l'enseignement, la recherche ou encore sur le terrain.
Aujourd'hui, on ne sait plus concevoir la recherche ou le domaine médical sans utiliser l'intelligence artificielle. Dans le domaine, par exemple, de l'imagerie médicale, on sait très bien qu'un radiologue... La question, est-ce que les radiologues vont être remplacés par l'intelligence artificielle? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que les radiologues vont être remplacés par des radiologues qui utilisent l'intelligence artificielle? C'est évident, parce que la qualité aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle sont majeures. Idem pour le futur pharmacien, idem pour le futur cardiologue. Il va utiliser l'intelligence artificielle plus que jamais comme un outil pour améliorer la précision des diagnostics, pour améliorer la précision des traitements. Et donc, ce sera des avantages majeurs pour ceux qui sauront les utiliser, mais ça ne remplacera jamais l'empathie, le contact avec le patient, la compréhension également de la maladie avec le patient.
Ainsi, derrière chacune de ces avancées scientifiques, se cachent des femmes et des hommes qui, comme Margot, Jean-Michel ou Karine, travaillent chaque jour pour faire progresser notre santé. Si la recherche peut parfois paraître lente et spécifique, c'est avant tout parce que notre corps est complexe et qu'il est nécessaire de mieux comprendre pour pouvoir mieux traiter. C'est là qu'on comprend toute l'utilité de chacun des métiers dans le domaine de la santé.
C'est vrai que dans le monde médical, on s'arrête souvent à penser que il n'y a que être médecin. Mais non, il y a tous les métiers qui touchent au laboratoire, que ce soit les chercheurs, le travail en laboratoire d'analyse dans les hôpitaux, tout ce qui touche à la pharmacie. C'est un domaine qui est extrêmement vaste et je pense que si on s'intéresse au domaine médical, on peut trouver le métier qui nous intéresse dans ce domaine-là.
Quelle que soit votre orientation, pharmacien, médecin, santé publique, kiné, dentiste, on se retrouve dans une communauté de ce qu'on appelle les professionnels de la santé, infirmières également, qui font qu'on a une vision, une vocation, qui est de prendre soin des gens, d'une façon ou d'une autre, et surtout de façon complémentaire. Ce sont des domaines passionnants où, quel que soit le débouché, ça nous amène quand même à rencontrer des gens qui nous font confiance, puisque la santé reste quand même la priorité majeure de la plupart des personnes.
Moi, je dirais de toute façon, il faut faire ce qu'on aime bien.
Et c'est sur ce beau message de Karine Mikkels que se termine cet épisode. Alors, si toi aussi, tu es intéressé par les études et les métiers de la santé, n'hésite pas à te renseigner, à rencontrer des passionnés, à poser toutes tes questions et surtout, à continuer d'éveiller ta curiosité. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast sur le thème passionnant de la santé. Merci à Margot Mignolet, Karine Mikkels et Jean-Michel Donnier d'avoir contribué à cet épisode. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au fait.
Au fait, un podcast réalisé par le Confluent des Savoirs et le service audiovisuel de l'Université de Namur, avec le soutien de la Wallonie.